Je vous propose de prier. Oui, merci mon Dieu, parce que nous pouvons lever les yeux vers l'essentiel, vers Jésus. Merci pour un si grand salut. Je te demande vraiment de nous conduire maintenant dans l'étude de ta parole. Tu dis dans les psaumes, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Envoie ta lumière, Seigneur, éclaire nos cœurs. Bénis-nous, fais-nous du bien. Merci, mon Dieu. C'est une série d'études que je vous propose de commencer aujourd'hui. Comme tout commencement, il nous faut poser les bases. Des bases qui sont, pour chacun d'entre nous, plus ou moins familières. Ces bases ne sont pas toutes développées aujourd'hui, seulement évoquées, mais nous y reviendrons plusieurs fois et en détail tout au long de nos méditations. Il y a aussi une difficulté que nous devons surmonter, celle représentée par le patois de Canaan. Si par exemple j'utilise dans un premier temps une expression comme « notre vieil homme crucifié », chacun est tenté de mettre dans ces termes divers sens qui peuvent nuire à notre bonne compréhension de la parole de Dieu. Là aussi, nous expliquerons ces diverses expressions et nous les développerons le moment venu quand nous les aborderons, quand nous abordons ces sujets, plus en détail, plus tard dans nos méditations. Pour commencer, voici un premier survol de la série d'études que je vous propose de parcourir ensemble. Après avoir compris la valeur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ aux yeux de Dieu, en rester seulement au pardon de nos péchés serait insuffisant. Cela reviendrait à être pardonné de nos actes tout en demeurant démuni et impuissant face à leur source. L'homme fait donc un grand progrès vers sa délivrance en Christ quand de la connaissance de ses péchés isolés, il s'est élevé à celle du péché en général et l'a reconnu comme une loi universelle et tyrannique. Mais cette connaissance seule le conduirait au désespoir s'il ne pouvait compter sur la grâce de Dieu pour le délivrer de cette tyrannie. Une fois notre vieil homme crucifié, le péché subsiste encore en nous, mais il ne règne plus. Le croyant ne le sert plus, il n'est plus son esclave. S'il combat, s'il souffre, s'il subit parfois de honteuses défaites et s'il en ressort blessé, il ne languit plus impuissant sous l'esclavage du péché. Il est de plus en plus vainqueur dans sa lutte, et cette lutte même, quelque ardente et douloureuse qu'elle puisse être, est une preuve que la vie nouvelle, la vie de l'Esprit de Jésus-Christ, triomphe de la nature déchue. C'est donc le thème de la vie chrétienne que nous allons aborder ensemble. Une question cruciale, qu'est-ce que la vie chrétienne? Une méditation de la parole de Dieu, du sermon sur la montagne par exemple, devrait nous amener à nous demander si en réalité une telle vie a jamais été vécue sur la terre, si ce n'est par le Fils de Dieu lui-même. Dans ces derniers mots, nous avons précisément la réponse à notre question. L'apôtre Paul nous donne sa définition de la vie chrétienne dans Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'exprime pas ici quelque chose de spécial, de particulier, un niveau très élevé du christianisme. Non. Il présente la pensée de Dieu pour tout chrétien. Pensée que nous pouvons résumer ainsi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Dieu nous révèle clairement dans sa parole qu'il n'a qu'une seule réponse pour chacun des problèmes de l'homme, son Fils, Jésus-Christ. Dans toutes ses relations avec nous, il agit pour nous mettre de côté afin que Christ prenne notre place. Nous pouvons ainsi parler de deux substitutions. Un substitut sur la croix qui nous assure le pardon, un substitut en nous, qui nous assure la victoire. Nous serons toujours aidés et nous serons gardés de beaucoup de confusion si nous nous souvenons toujours du fait que Dieu répondra à toutes nos questions d'une seule manière, par une révélation de plus en plus profonde de son Fils. Notre double problème, les péchés et le péché. Lorsque la lumière de Dieu pénètre pour la première fois dans mon cœur, je crie à lui pour avoir le pardon, car je réalise que devant Dieu, j'ai commis des péchés. Mais après avoir reçu le pardon de mes péchés, je fais une nouvelle découverte, celle du péché. et je me rends compte non seulement que j'ai commis des péchés devant Dieu, mais que le mal habite en moi. Je découvre ma nature de pécheur. Il y a dans mon être intérieur une inclination au péché, une force en moi qui me pousse à pécher. Lorsque cette puissance se manifeste, je commets des péchés. Je puis chercher et recevoir le pardon, mais je pécherai encore. Ma vie se perpétue ainsi dans un cercle vicieux. Je pêche, je suis pardonné, mais je pêche de nouveau. Je jouis de la réalité bénie du pardon de Dieu, mais il me faut quelque chose de plus. Il me faut la délivrance. J'ai besoin de pardon pour ce que j'ai fait, mais j'ai aussi besoin d'être délivré de ce que je suis. Ainsi, le pardon concerne ma conscience et la délivrance concerne ma vie. Le double remède de Dieu, le sang et la croix. Les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains nous présentent donc 2 aspects du salut. Premièrement, le pardon de nos péchés et deuxièmement, notre délivrance du péché. Dans la première partie des chapitres 1 à 8 des Romains, il est fait mention à 2 reprises du sang du Seigneur Jésus. Au chapitre 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Et au chapitre 5, verset 9, « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère à venir. » Dans la seconde partie, une idée nouvelle est introduite au chapitre 6, verset 6, où il nous est dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Le sujet traité dans la première partie se concentre sur cet aspect de l'œuvre du Seigneur Jésus, représenté par le sang versé pour notre justification, pour la rémission de nos péchés. Cette terminologie n'est cependant plus employée dans la seconde partie, où le sujet traité se concentrera sur un autre aspect de son œuvre, représenté par la croix, c'est-à-dire par notre union avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Cette distinction a une grande valeur. Nous verrons que le sang est lié à ce que nous avons fait, tandis que la croix touche à ce que nous sommes. Le sang efface nos péchés, tandis que la croix frappe à la racine même de notre nature de pécheur. Les 3 problèmes posés par nos péchés. Considérons maintenant le sang précieux du Seigneur Jésus et sa valeur pour nous, puisqu'il efface nos péchés, nous justifie aux yeux de Dieu et enfin nous délivre des accusations du diable. Le péché se manifeste comme une désobéissance et il crée avant tout, entre Dieu et l'homme, une séparation qui éloigne l'homme de Dieu. Dieu ne peut plus avoir de communion avec l'homme car il y a maintenant un obstacle auquel les Écritures donnent le nom de péché. Aussi, est-ce premièrement Dieu qui déclare « Tous sont sous l'empire du péché » Romains 3, 9. Ensuite, ce péché dans l'homme, qui constitue désormais une barrière à sa communion avec Dieu, fait naître en lui un sentiment de culpabilité, d'éloignement de Dieu. Alors, sa conscience se réveillant, c'est l'homme lui-même qui s'écrie « J'ai péché ». Mais ce n'est pas tout, car le péché donne aussi à Satan une base d'accusation devant Dieu, tandis que notre sentiment de culpabilité lui offre un terrain d'accusation dans nos cœurs. De sorte que, en troisième lieu, c'est l'accusateur de nos frères qui déclare maintenant « Tu as péché ». Apocalypse 12, 10. Ainsi, pour nous racheter et nous ramener dans le dessein de Dieu, le Seigneur Jésus avait à résoudre ces 3 problèmes, des péchés, de la culpabilité et de l'accusation de Satan contre nous. Il fallait tout d'abord que nos péchés soient enlevés. Cela fut accompli par le précieux sang de Christ. Il fallait ensuite que notre culpabilité soit effacée et que notre conscience coupable trouve la paix par la révélation dans nos cœurs de la valeur de ce sang. Il fallait enfin faire face aux attaques de l'ennemi et répondre à ses accusations. Il nous est clairement montré dans les Écritures que le sang de Christ agit efficacement dans ces 3 directions, Dieu, l'homme et Satan. Aujourd'hui, nous ne parlerons que de la valeur du sang de Jésus-Christ aux yeux de Dieu. Le sang est avant tout pour Dieu. Si nous voulons avancer, il nous est absolument nécessaire de nous approprier les vertus de ce sang. C'est une condition essentielle. Il nous faut avoir une connaissance fondamentale du fait que le Seigneur Jésus est mort sur la croix comme notre substitut et une compréhension claire de l'efficacité de son sang pour effacer nos péchés. Sinon, nous ne saurions prétendre être entrés dans le chemin de la foi. Le sang est versé pour l'expiation de nos péchés et il est lié à notre position devant Dieu. Nous avons besoin de pardon pour les péchés que nous avons commis et que malheureusement nous commettrons encore, afin de ne pas tomber sous le jugement. Nos péchés sont pardonnés non parce que Dieu ferme les yeux sur le mal que nous avons fait, mais parce qu'il voit le sang et que cette vue apaise sa juste colère. Le sang n'est donc pas avant tout pour nous, mais pour Dieu. Si je veux connaître la valeur du sang pour moi, il faut que j'accepte tout ce qu'il signifie pour Dieu. Si je ne connais pas la valeur qu'a le sang pour Dieu, je ne connaîtrai jamais la valeur qu'il a pour moi. C'est seulement lorsque le Saint-Esprit m'a révélé le prix que Dieu attache au sang de Christ que j'entre moi-même au bénéfice de sa vertu et que je découvre sa valeur précieuse pour moi. Mais le premier aspect du sang est pour Dieu. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau, le mot « sang » qui est lié à l'idée d'expiation est employé plus d'une centaine de fois et il est toujours présenté comme étant pour Dieu. Il y a dans le calendrier de l'Ancien Testament un jour qui est en relation étroite avec la question de nos péchés, c'est le jour des expiations. Dans le chapitre 16 du Lévitique, nous lisons qu'au jour des expiations, le sang d'animaux, par définition innocent, était recueilli et apporté dans le lieu très saint pour y être répandu 7 fois devant l'Éternel. Ce jour-là, le sacrifice pour les péchés était offert publiquement, dans le parvis du tabernacle. Tout était fait ouvertement et pouvait être vu de tous. Mais l'Éternel avait ordonné que personne n'entrât dans le tabernacle même, à l'exception du souverain sacrificateur. Lui seul prenait le sang et ayant pénétré dans le lieu très saint, il en faisait l'aspersion devant l'Éternel. Pourquoi ? Parce que le souverain sacrificateur était une figure du Seigneur Jésus dans son œuvre rédemptrice. Christ est apparu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas été construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et après nous avoir acquis une rédemption éternelle, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, en offrant non pas le sang des boucs et des veaux, mais son propre sang. Hébreux 9, 11 à 12. Le souverain sacrificateur était ainsi celui qui, seul, pouvait accomplir cette œuvre. Nul autre que lui ne pouvait s'approcher et pénétrer dans le sanctuaire. De plus, il n'y entrait que pour accomplir un seul acte. Il présentait le sang à Dieu, comme une offrande qui lui était agréable et en laquelle il trouvait sa satisfaction. C'était une transaction entre le souverain sacrificateur et Dieu dans le secret du lieu très saint, loin des regards des hommes qui devaient en bénéficier. L'Éternel demandait cela. Le sang est donc en premier lieu pour lui. Cette effusion du sang de l'agneau pascal apparaît déjà auparavant en Égypte pour le rachat d'Israël. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays. Hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sur les maisons où vous habitez vous servira de signe. Je verrai le sang et je passerai outre. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, 12 à 13. C'est l'une des meilleures préfigurations de notre rédemption, notre rachat dans l'Ancien Testament. Le sang était mis sur le linteau et les montants des portes à l'extérieur, tandis que la viande, la chair de l'agneau, était mangée à l'intérieur des maisons. Dieu avait dit, je verrai le sang et je passerai outre. » Nous avons là une autre illustration du fait que le sang ne devait pas être présenté à l'homme, mais à Dieu, car le sang était mis sur le linteau et les montants de la porte. Ceux qui célébraient la fête à l'intérieur de la maison ne pouvaient donc pas le voir. Dieu est satisfait. La sainteté de Dieu et la justice de Dieu demandent qu'une vie sans péché soit donnée pour l'homme. La vie est dans le sang, et ce sang doit être versé pour moi à cause de mes péchés. Dieu est celui qui le demande, et celui qui demande, pardon, que le sang soit versé pour satisfaire sa justice. C'est lui-même qui le déclare. Quand je verrai le sang, je passerai outre. Le sang de Christ satisfait pleinement Dieu. Avant notre conversion, nous n'étions peut-être jamais troublés par notre conscience, jusqu'au moment où la parole de Dieu a commencé à nous réveiller. Notre conscience était morte, et Dieu ne peut certainement rien faire pour ceux dont la conscience est morte. Mais, plus tard, lorsque nous avons cru, notre conscience réveillée est devenue extrêmement sensible, et cela a pu constituer un réel problème pour nous. Le sentiment du péché et de la culpabilité a pu devenir si grand, si terrible, qu'il est allé jusqu'à nous paralyser en nous faisant perdre de vue la véritable efficacité du sang. Il nous semble alors que nos péchés sont si réels et un péché particulier peut si souvent nous tourmenter que nous pouvons en arriver à croire que nos péchés sont trop grands pour le sang de Christ. Or, toutes nos difficultés proviennent de ce que nous cherchons à éprouver un sentiment. Nous essayons de ressentir la valeur du sang et de saisir par nous-mêmes ce qu'il signifie pour nous. Cela n'est pas juste. C'est d'abord Dieu qui voit le sang. Nous devons ensuite accepter la valeur que Dieu lui donne. C'est alors que nous comprendrons la valeur qu'il a pour nous. Si par contre, nous essayons de l'apprécier par nos sentiments, nous n'arriverons à rien. Nous resterons dans les ténèbres. C'est une question de foi en la parole de Dieu. Nous devons croire que le sang est précieux pour Dieu, parce qu'il dit qu'il l'est. Ce n'est point par des choses périssables, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vos pères vous avaient transmise, mais par le sang précieux de Christ, l'agneau sans défaut et sans tache, déjà prédestiné avant la création du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Si Dieu peut accepter le sang en rançon pour nos péchés, et comme prix de notre rédemption, nous pouvons être assurés que la dette a été payée. Si Dieu est satisfait par le sang, c'est donc que le sang est accepté. Notre appréciation du sang ne peut dépendre et ne peut répondre à celle de Dieu, pardon. Notre appréciation du sang ne peut répondre à celle de Dieu, ni plus ni moins. Elle ne peut certainement pas être plus grande, mais elle ne doit pas l'être moins. Souvenons-nous que Dieu est saint et qu'il est juste, et qu'un Dieu juste et saint a le droit de déclarer que le sang est acceptable à ses yeux et qu'il le satisfait pleinement. Ici, il n'est pas question d'un sentiment de notre part, mais d'un fait spirituel qu'il nous faut accepter, c'est-à-dire saisir avec foi et avec joie. La prochaine fois, nous nous pencherons sur les deux domaines où le sang intervient aussi, la conscience de l'homme et les accusations de Satan. Mais pour clore notre méditation d'aujourd'hui, je vous propose un rappel de ce que nous avons partagé. Qu'est-ce que la vie chrétienne ? Deux substitutions. Un substitut sur la croix qui nous assure le pardon, un substitut en nous qui nous assure la victoire. Notre double problème, les péchés et le péché. J'ai besoin de pardon pour ce que j'ai fait, mais j'ai aussi besoin d'être délivré de ce que je suis. Ainsi, le pardon concerne ma conscience et la délivrance concerne ma vie. Le double remède de Dieu, le sang et la croix. Le sang efface nos péchés, tandis que la croix frappe à la racine même de notre nature de pécheur. La valeur du sang de Jésus-Christ. Ainsi, pour nous racheter et nous ramener dans le dessein de Dieu, le Seigneur Jésus avait à résoudre ces trois problèmes. Des péchés, donc de la colère de Dieu à notre encontre, de la culpabilité, donc de notre conscience, et de l'accusation de Satan contre nous. Les trois problèmes posés par nos péchés. Il nous est clairement montré dans les Écritures que le sang de Christ agit efficacement dans ces trois directions, Dieu, l'homme et Satan. Le sang est avant tout pour Dieu. Si je veux connaître la valeur du sang pour moi, il faut que j'accepte ce qu'il signifie pour Dieu. Dieu est satisfait. Toutes nos difficultés proviennent de ce que nous cherchons à éprouver un sentiment. Nous essayons de ressentir la valeur du sang et de nous saisir par nous-mêmes de ce qu'il signifie pour nous. Ici, il n'est pas question d'un sentiment de notre part, mais d'un fait spirituel qu'il nous faut accepter, c'est-à-dire saisir avec foi et avec joie. Je vous laisse avec ce verset d'un Pierre, 18-20. « Ce n'est point par des choses périssables, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vos pères vous avaient transmise, mais par le sang précieux de Christ, l'agneau sans défaut et sans tache, déjà prédestiné avant la création du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. »